les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Retour sur le Paseo des entrepreneurs avec Dominique Bluzet. Dominique Bluzet est directeur des théâtres du Gymnase, du Jeu de Pomme et du Grand Théâtre de Provence. Il était intervenu lors de la table ronde qui avait pour titre « Quel nouveau modèle économique pour la culture en PACA ?» Invité au plateau monté pour l'occasion, il revient sur le contenu de son intervention.
Dominique Bluzet, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Dominique Bluzet, vous êtes vice-président de la CCI Marseille-Provence et puis vous êtes directeur des théâtres d'Aix-Marseille. Vous êtes intervenu ce soir autour de cette table ronde « Quel financement pour la culture aujourd'hui ?» et vous avez fait un exposé un peu anxiogène d'une certaine manière puisqu'il s'agit tout de même de se remettre au travail en ce qui concerne aujourd'hui les financements dans la culture.
Mais en fait, je crois qu'il y a une mutation profonde, pas simplement des financements, mais des modes de consommation culturelle, de la manière dont la culture est perçue dans la société, qu'est-ce qu'on met derrière le mot culture, et forcément, en conséquence de ça, des financements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les modes de culture traditionnelle ne peuvent pas représenter 100% des investissements culturels des collectivités qui aujourd'hui viennent financer des cafés musiques, des machins, des trucs qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une ville, une région, un département disait il faut financer le théâtre, l'opéra, le musée. C'était facile. On était dans des schémas qu'on connaissait. Aujourd'hui, on est dans une population qui, en tout cas pour les générations qui arrivent, ne se reconnaît plus dans ces schémas culturels. Donc le politique dit il y a d'autres choses à financer, donc on ne peut pas mettre autant d'argent qu'avant. Et pourtant, on sait que ces politiques culturelles classiques, elles sont essentielles à l'attractivité d'un territoire. Donc c'est à nous de nous adapter à une nouvelle donne économique, à une nouvelle perception que la société a de nous, et de rajeunir, je pense, notre regard sur notre porte sur nous. Quel regard on porte sur nous ?
Vous avez aussi, d'une certaine manière, un peu déploré l'absence de la gauche, qui a été longtemps un référent moral sur le financement de la culture. Et vous dites que ça, c'est plus possible.
Il y a depuis Lionel Jospin on a oublié quelque part la gauche. Que la culture, c'était un des fondamentaux de la gauche, et que la droite menait une politique culturelle cohérente parce que la gauche était le référent moral. Et donc, ils ne pouvaient pas aller contre. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de se dire les budgets de l'État baissent. Et dans le discours, la culture n'est plus une référence pour la gauche. Et donc, forcément, il faut qu'on se demande comment on va vivre, comment on va faire vivre ces entreprises culturelles, comment on va faire tout ça.
Vous avez précisé également que finalement on est passé d'une politique de la demande à une politique de l'offre, et ça, ça a complètement tout changé.
C'est un bouleversement total. Avant, un théâtre se disait j'ai envie de faire ça, et on se posait pas d'autres questions. Et aujourd'hui, vous êtes obligé de vous dire qu'il y a des segments de public qui ne viennent jamais au théâtre du Gymnase, par exemple. Comment vous faites pour les faire venir ? Alors nous, on a répondu, on s'est dit, tiens, il n'y a pas de lieu pour le jazz à Marseille, qui a été une des grandes villes du jazz dans les années 50, 60, 70. On va remettre sur pied une programmation de jazz dans les trois théâtres. Ce soir, au Grand Théâtre, on va accueillir John McLaughlin. Et il y a un public nouveau qui vient pour nous, parce qu'on a écouté sa demande et qu'on a répondu à cette demande, et il ne vient que pour ça. C'est-à-dire que si demain on lui propose une pièce de théâtre, il ne viendra pas. Donc on travaille sur des segments de public à qui, on écoute la demande de ces segments, on essaye d'y répondre, et à côté de ça, on continue à avoir une politique de l'offre artistique, qui est notre raison d'être initiale, mais on est obligé aussi de s'intéresser à des publics qui ne venaient pas, et à se dire comment on les fait venir. Pour ça, il faut être à leur écoute, et pour ça, il faut répondre à leur attente. Et ça, c'est une politique de la demande.
Mais est-ce que vous trouvez justement aujourd'hui des œuvres artistiques qui sont pensées en termes de politique de la demande, c'est-à-dire des œuvres qui pensent la demande du public.
Alors, d'abord, le public, ça n'existe plus. C'est des publics qui n'ont rien à voir. Avant, des jeunes, c'était des jeunes qui allaient dans des lieux, des jeunes cultivés, c'était des futurs vieux cultivés. C'est-à-dire que le chemin était le même. Aujourd'hui, la génération qui a 20 ans ne se reconnaît pas dans les modes culturels de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et quand vous allez, quand vous regardez comment Jamel Debbouze avec le Jamel Comedy Club a créé un courant culturel nouveau, c'est-à-dire comment dire, tout d'un coup, vous avez quelque chose de nouveau qui apparaît, comme a pu l'être le café-théâtre à une époque. Mais dans le café-théâtre, il y avait le mot théâtre. Dans le stand-up, il n'y a rien de tout ça. C'est une nouvelle manière d'appréhender le spectacle vivant. Donc ça, des gens comme Jamel Debbouze, disons la culture Canal+, elle a été pensée comme effectivement rentrant dans une politique de la demande. Canal+, c'est purement la chaîne qui est à l'écoute d'un segment de l'auditoire et qui apporte un nouveau regard sur la télévision. Et de ça naissent des artistes, une manière qui est nouveau.
Mathéo,
vous avez depuis déjà de longues années développé ce qu'on pourrait presque appeler un groupe, puisque vous dirigez trois théâtres plus un festival. Est-ce que cet agrandissement, c'est une manière de résister ou d'accompagner ce changement de paradigme? C'est quoi qui ont été les motivations? Puisqu'on on pourrait aussi se dire derrière, il n'y a peut-être pas d'issue à autre chose que des grands groupes régionaux dont vous pourriez être un des représentants.
La première réflexion pour moi, ça a été en mutualisant certains emplois, je laisse de l'argent sur l'artistique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux secrétaires techniques, deux secrétaires, deux assistantes, deux comptables, des métiers artistes, des métiers administratifs, je récupérais, quand on a commencé à mettre en place, très vite 150 à 200 000 euros que je pouvais affecter à l'artistique. Ensuite, la question a été la mutualisation des publics. En augmentant notre offre, on augmente le nombre de gens à qui on s'adresse. Et en augmentant le nombre de gens à qui on s'adresse, on peut accompagner des artistes qui auraient un tout petit public vers des publics plus larges. Et nous, on a beaucoup accompagné de jeunes compagnies issues du territoire de la région PACA, justement en essayant de créer des modes d'interpellation communs à ces trois théâtres, sur des territoires différents, Aix et Marseille, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que 40% de nos spectateurs n'habitent ni Aix ni Marseille. Donc, ils sont dans des petits villages, des environs, et on n'aurait jamais eu les moyens de les toucher. Donc, le fait de grossir nous a permis d'élargir notre assise en termes de public, de mutualiser les emplois administratifs, de pouvoir consacrer plus d'argent à l'artistique et d'avoir une visibilité média beaucoup plus forte, y compris pour les artistes, c'est important. Se dire, quand je dis que je fais un spectacle au Théâtre du Gymnase, tout le monde sait où c'est en France, ce qui n'était pas le cas avant.
Dans cette table ronde, vous avez présenté l'industrie du livre un peu comme modèle, mais en même temps, l'industrie du livre va très mal.
Mais elle va beaucoup moins mal qu'on aurait pu l'imaginer avec l'arrivée des tablettes numériques, avec le fait que les adolescents lisent beaucoup moins qu'avant, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez des maisons comme Actes Sud qui arrivent à développer des niches de lectorat extrêmement fortes. Il y a eu une unification de la commercialisation du livre avec le prix unique du livre, par exemple, qui est un acte économique et un acte culturel en même temps, et un acte politique. Il y a eu des mutualisations de certains réseaux de distribution, et c'est formidable qu'une maison comme Actes Sud, qui est un éditeur de province, arrive aujourd'hui à faire jeu égal avec les grandes maisons d'édition traditionnelles. Maintenant, c'est sûr que le regard qu'on porte sur le livre est totalement différent de celui qu'on avait auparavant. Il y a une vision consumériste de la culture chez les citoyens qu'il faut prendre en compte. La culture n'est plus un passage obligé pour évoluer socialement. C'est un acte de consommation.
Vous avez évoqué sur la table ronde aussi tout à l'heure votre relation au mécénat, votre politique de mécénat, en rappelant l'exemplarité à une échelle nationale, que peut-être quelques grands établissements publics avaient à peu près le même volume financier qui venait des mécènes. Moi, la question que j'aimerais vous poser depuis le temps que vous fréquentez ces mécènes, c'est qu'est-ce que vous avez aperçu comme transformation venant de leur part sur le regard qu'ils pourraient porter sur l'art et la création, et qu'est-ce que ça a potentiellement transformé chez vous ?
Alors, ils sont beaucoup plus intrusifs qu'auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont une attente. Et en même temps, ils ont une stratégie. Le CIC, c'est le mécène de la musique classique. Il est le mécène des victoires de la musique. Il est le mécène de la restauration d'auditorium. Il achète un instrument de musique pour le confier à une jeune violoncelliste. Il y a, si vous voulez, toute cette idée que ça correspond à une politique pour eux. Et à partir de là, ils ont un désir de marketing culturel, de marketing de mécénat, qui consiste à dire « nous, on veut ça, on attend ça, on veut des chiffres, on veut un PowerPoint sur la fréquentation », des outils qui n'étaient pas les nôtres auparavant. Donc on a dû évoluer dans un compte-rendu de nos actions qui est beaucoup plus proche de celui des entreprises que de celui du ministère de la Culture. On a dû se professionnaliser et apprendre à dépenser différemment. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un programme, un dossier de presse. Bon, notre mécène, il nous dit, excuse-moi, à quoi il sert le dossier de presse ? C'est la copie du programme. Pourquoi vous dépensez deux fois de l'argent ? Et bien, sur des outils de cette réflexion, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des endroits où, en étant dans une autre logique économique, très différente de nous, parce qu'avant, nous, on dépensait en fonction de nos désirs. Là, on essaye de dépenser en fonction d'une efficacité, et cet argent économisé, il va directement sur l'artistique. Et ça, pour nous, c'est une vraie révélation. Dépenser mieux. Comment on fait un choix, on le pose d'un point de vue artistique, on le pose d'un point de vue économique, et on se dit, qu'est-ce qui va générer à la fois comme augmentation d'activité ou comme plus artistique, mais qu'est-ce qu'il va générer comme dépense et est-ce qu'il vaut la peine ? Et donc, dans la prise de décision, vous êtes obligé de modifier le regard que vous portiez sur les autres. Avant, on avait un jeune metteur en scène qui arrivait, qui disait « Je veux monter Casimir et Caroline d'Horvat, 12 comédiens, ça va être formidable, je vais faire ça comme décor, etc. » Et aujourd'hui, on dit, c'est une bonne idée, mais on va voir s'il y a à la fois un débouché sur ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de monter un spectacle, pas pour qu'il se joue trois fois, mais pour qu'il ait une vraie vie, et quel est notre rôle en tant que producteur dans cette incitation, comment on va vendre le spectacle, comment on va se battre pour le projet. On doit être beaucoup plus proactif en tant qu'accompagnant à des projets artistiques, et en même temps, on va le regarder, on va lui dire, le budget, je ne sais pas, c'est 200 000 euros. Comment tu les dépenses ? Sur quoi on met l'argent ? C'est quoi l'investissement majeur ? C'est l'artiste, c'est le décor, c'est les techniciens, c'est quoi ? Et ça oblige à un dialogue différent avec les artistes, auquel ils n'étaient pas habitués et nous non plus. Mais à un moment, il faut passer par là.
Dominique Bluzet, peut-être une dernière question. Avec Marseille-Provence 2013, alors est-ce que la culture a tiré profit de l'entreprise ?
Alors, ce dont je suis certain, c'est que l'entreprise a tiré profit de la culture. J'espère qu'il restera une trace sur le fait que, dans la capitale européenne de la culture, quand même, les chefs d'entreprise et les opérateurs culturels ont été des citoyens égaux d'un même territoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans deux mondes différents. Et il y a eu des dialogues qui ont été extrêmement enrichissants d'un point de vue humain. Une appréhension de l'autre, j'apprends à te connaître, qui a été forte, je pense, et je crois, j'espère que ça restera.
Peut-être vraiment une dernière. Hein. Je disais que vous êtes quand même président de la CCI.
Et vice-président.
Vice-président.
Le président, il va me tuer, elle est sortie. Là.
Vice-président. Et nous, on va recevoir sans doute tout à l'heure une personne de la CRES. Quel est le lien entre la CCI et la CRES ? Et quel rôle de la CRES
Alors, excusez-moi, c'est quoi la CRES ?
La Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Ah. Et quel lien peut avoir cette chambre dans le financement aujourd'hui de la culture ?
Alors, on m'a demandé, je suis je crois le premier opérateur culturel élu d'une chambre de commerce et en tout état de cause le seul qui soit vice-président d'une chambre de commerce. Ça a été un symbole de la capitale européenne de la culture quand Jacques Pfister a dit « Je veux pas que le monde économique soit séparé du monde culturel, donc j'appelle à mes côtés un opérateur culturel qui en plus a l'air d'avoir un discours politiquement compatible avec le monde entrepreneurial ». Et ça, ça a été pour moi quelque chose de très fort. Après, on se dit, quelle est la corrélation entre le CRES et nous ? Je pense qu'il n'y en a pas. C'est l'évolution des financements de la culture, des pratiques culturelles, de la place de la culture dans la société, de ce vivre ensemble que ça signifie, il va à un moment ne plus être un acte politique mais un acte citoyen. Comment les citoyens vont se réapproprier leurs désirs culturels et leurs perspectives culturelles. C'est ça aujourd'hui le combat. Et s'il doit y avoir une trace de la capitale européenne de la culture, c'est que c'est nous qui construisons notre propre avenir. On ne peut pas attendre que le Deus Ex Machina arrive avec des liasses de bifton et vous dise, bah, tiens, tu veux de la thune, en voilà. Aujourd'hui, on doit inventer, rêver, créer, en se disant qu'en tant que citoyen, il est important de se réapproprier ce processus. Si le politique est là comme accompagnant, c'est formidable, mais il ne sera plus aujourd'hui qu'un accompagnant et non plus un décideur. Et je crois qu'il faut inventer un monde nouveau dans lequel le citoyen, quand on parlait du crowdfunding, c'est-à-dire comment on va sur Internet, eh ben c'est chaque citoyen devient militant d'un projet artistique. Eh ben, on doit tous être dans cette idée qu'aujourd'hui, c'est par ce militantisme artistique qu'on va réinventer une politique culturelle dans la cité. Et c'est ça l'enjeu.
Merci Dominique Bluzet d'avoir accepté de répondre.
Merci de m'avoir invité.
À nos questions.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.